Encore une ou deux minutes avant qu'on débute ce matin. Je serais curieux de savoir s'il y en a qui déjeunent avec nous pendant la bénédiction matinale. L'exercice serait intéressant à faire, Pascal, mais dépendamment à quel groupe de fans on appartient, on trouvera toujours moyen d'être moins satisfait. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a moins de jours sous la neige que sous le soleil, parce que la neige est arrivée début janvier. On avait peur, on se demandait encore si Noël serait blanc cette année. Donc, les vraies tombées de neige ont été en janvier et février. Et là, on est rendu à la fin mars et déjà le 3/4 est parti, ou le 9/10, je dirais même, est parti. Donc, j'ai l'impression qu'il y a moins de neige que de soleil. Mais si vous parlez du froid, le froid est une notion très subjective. Moi, je trouve qu'il ne fait jamais assez froid, mais certains d'entre vous trouveraient qu'il fait toujours trop froid. Donc, voilà. Effectivement, Thérèse, c'est un bon signe. Ça montre de l'anticipation par rapport aux bénédictions matinales, ce qui est une bonne chose. Bonjour à Jimmy qui se cache sous EHJCDD. Deux œufs bacon et puis demi-avocat keto style. Ouais, c'est beaucoup de calories ça, par contre, deux œufs bacon avec demi-avocat. Parce que le demi-avocat remplace aussi de la viande. Les œufs, ben c'est un produit animal de toute manière. Donc, mais bon appétit, Alex. De toute manière, tu es tellement actif et tellement en forme que tu peux te permettre ces deux œufs bacon demi-avocat assez aisément, contrairement à d'autres comme moi. Bonjour Tania, et je suis dans une période de jeûne actuellement, donc, mais ça ne me dérange pas de parler de nourriture puisque je cuisine malgré tout pour Daphné, donc il n'y a pas de trouble. Bonjour Tania, voilà. Tania, c'est Marie-Huguette, bien entendu. Bonjour Babette, bonjour à Andreas, votre époux. Alors, on va prier et on va débuter donc notre méditation de ce matin. Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni. Merci de nous rassembler encore aujourd'hui pour débuter la journée à travers une exhortation, à travers une lecture de ta parole. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer la journée puisque c'est un rendez-vous avec toi que nous avons matin après matin. Pour que tu nous instruises, pour que tu nous parles, pour que tu corriges peut-être des faits à changer ou à transformer dans notre vie, pour que tu nous modèles afin d'être les serviteurs, les servantes que tu désires tant, afin d'être les enfants du Père Céleste que nous aimons aussi tellement. Alors ce matin, Seigneur, parle-nous encore une fois. Prends soin de nous, prends soin de ma sœur, prends soin de mon frère, que ce soit un temps profitable pour chacun d'entre nous, un temps riche en instruction, un temps riche aussi en remise en question, un temps riche, Seigneur, où tu peux nous confronter avec la réalité de notre état et avec tes désirs pour notre vie. Alors ce matin, bénis ma sœur, bénis mon frère, où qu'il soit, autour de Montréal, ailleurs dans la province ou ailleurs dans le monde, que ta grâce et ta bénédiction reposent sur eux. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous, bien entendu, le passage qui nous sert de réflexion cette semaine. Dans Deutéronome, au chapitre 15, Dans 2 jours, on va retourner un peu à la question de Lévitique 25. On est toujours dans la question dans le sujet du jubilé. Et cette semaine, c'est une question de remboursement de dette, une question de rémission de dette. Mais comme on l'a vu hier et dimanche, c'est aussi une question d'aborder le sujet du pardon. Dans nos vies. Alors, je lis pour vous Deutéronome 15, le verset 1 et le verset 2. Tous les 7 ans, tu feras un relâche. Et voici comment le relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Je relis les deux versets. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Alors que Dieu bénisse sa parole une fois de plus ce matin. Alors, comme on l'a expliqué, cette semaine, on parle effectivement du remboursement d'une dette, de la rémission d'une dette, comme on l'a vu à chaque 7 ans, dans ce cadre d'un jubilé. À chaque 7 ans, il arrivait un moment spécifique où tous les créanciers devaient se défaire de leurs droits de créance sur les individus auprès desquels ils avaient prêté de l'argent ou auprès desquels ils avaient donné quelque chose. Et c'était une loi pour protéger non seulement le pauvre et l'indigent, mais aussi, je crois, que c'était une loi qui s'établissait pour voir ou pour décréter quelles devaient être les relations entre les différentes parties d'une même population. Comment on devait se comporter avec un frère, une sœur qui était moins bien nanti, et à qui on avait donc prêté un certain montant. Hier, on a étudié le terme important du relâche avec le terme shemita en hébreu, qui voulait dire l'annulation d'une dette, l'annulation des conséquences inhérentes à une dette, qui voulait dire aussi l'annulation du jugement et de la culpabilité qui ont souvent lien avec le fait d'être sous une dette. Et de surcroît à cela, c'était aussi la fin de certaines pratiques, donc la fin de paiements trop lourds, de paiements exagérés, donc la fin des exactions en soi, et la fin des rétributions, donc la fin du talion. Et en ce sens-là, on allait vraiment spécifiquement dans la question du pardon, ne plus appliquer la loi du œil pour œil, dent pour dent. Il y a des gens qui, encore aujourd'hui, même si on est sous la grâce, voudraient l'appliquer. Si cette loi-là s'appliquait encore aujourd'hui, ben notre offense par rapport à Dieu mériterait la mort et ne pourrait être couverte par le salut qui nous est octroyé à travers la mort et la résurrection de Jésus. Et on a vu que ce temps de Shemitah, ce temps où on annule les dettes, se devait d'être public. Non pas qu'on publicise, voici cette personne me devait une dette, et puis maintenant elle est déchargée de sa dette, et qui est parfois un moyen tout simplement pour avilir un peu la personne qui nous devait. On se dit, ouais, on va t'effacer la dette, mais tu vas quand même souffrir un peu. C'est pas ça l'objectif. L'objectif de la publication, c'est de dire, moi, en tant que prêteur, moi, en tant que créancier, j'accorde le pardon, j'accorde la libération et j'accorde la remise d'une dette. Et je prends la décision officielle de remettre cette dette, tout simplement pour que quelqu'un puisse venir me voir lorsque j'aurai tendance à revenir sur ma décision et de dire, Florent, il me semblait que tu avais dit que tu oubliais la chose. Florent, il me semblait que tu avais dit que tu pardonnais. Donc, c'est important de faire les choses publiques. Parce que sinon, il est trop facile dans notre nature pécheresse et dans notre nature qui est remplie de côtés iniques de revenir sur notre décision, de revenir sur notre parole et de remettre un joug qu'on avait officiellement enlevé, de remettre ou officieusement enlevé des épaules de quelqu'un et de le remettre en vigueur. Donc le pardon se doit d'être une question finale et une question sans révocation. Alors aujourd'hui, on va continuer dans cette question du relâche. On a vu dans le texte qu'on a lu hier et aujourd'hui, et je reprends pour vous le verset 2, « Et voici comment s'observera le relâche, quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel. » Publier le relâche en l'honneur de l'Éternel. Le terme « honneur » est un terme qu'on a déjà étudié, et peut-être que vous ne vous rappelez pas de la terminologie hébraïque, mais lorsque je vais vous dire l'image que ça comporte dans une langue plus moderne comme le français, on va dire, vous allez tout de suite vous rappeler de cette image. Donc, honorer Dieu, c'est le terme kabab, K-A-B-A-B, kabab, K-A-B-A-B, et l'expression en soi, rendre lourd. Et on se rappelle cette image de la balance dans laquelle on disait, mais quelle est la lourdeur de Dieu dans ta balance? Est-ce que ce sont tes priorités ou Dieu qui pèse plus lourd? Donc, rendre honneur à Dieu, faire honneur à Dieu, c'est le rendre lourd dans la balance de tes priorités, dans la balance des choses importantes de ta vie. Et rendre lourd Dieu aussi dans la balance des gens qui sont devant toi. Parce que faire honneur à Dieu ou rendre honneur à Dieu, c'est non pas simplement dans une relation, tout simplement moi avec Dieu, mais c'est aussi de démontrer aux uns et aux autres qu'effectivement Dieu est lourd. Lorsqu'on témoigne de Dieu, lorsqu'on témoigne de ses bienfaits, lorsqu'on rend grâce à Dieu avec tout simplement un petit témoignage qui dit « voici ce que Dieu a fait, voici comment Dieu a opéré dans ma vie ces derniers temps, ces dernières semaines, ces dernières années », on est en train de dire « voici pourquoi Dieu doit être lourd dans la balance des uns et des autres ». Donc cette image importante encore aujourd'hui, faire honneur à Dieu, le rendre lourd. Et je vous dirais que Dieu ne sera jamais assez lourd, que Dieu, même au-delà de nos compréhensions, la lourdeur de Dieu est sans fin, parce qu'il mérite tout honneur, toute gloire, toute louange, toute adoration, toute action de grâce, tout remerciement lui reviennent, bien entendu. Donc, honneur de l'Éternel, appliquer le Shemitah, appliquer le relâche, appliquer la rémission des dettes et appliquer le pardon pour rendre honneur à Dieu. Et comme on l'a vu hier, la rémission des dettes, ça va au-delà d'une simple question financière. Il y a des gens qui voudraient trop le limiter à une question « j'ai prêté 5$ à quelqu'un et j'attends ce qu'il me le rende ». Ce n'est pas juste une question d'argent. Ça implique la question d'argent, mais ça s'étend beaucoup plus loin que cela. On voyait hier que le Shemitah, c'était sur toute chose où on croit que les gens nous sont redevables. Donc, lorsqu'on rend un service et on s'attend à ce que les gens peut-être nous rendent un service en pareil, nous rendent un service réciproquement. Lorsqu'on offre quelque chose à quelqu'un et on s'attend à ce que la personne doive nécessairement nous être reconnaissante, doive nécessairement nous dire merci, voire même parce qu'on a donné à quelqu'un, parce qu'on a prêté à quelqu'un, que cette personne nous est redevable ad vitam aeternam pour toujours, pour le restant de sa vie, pour le restant de notre vie. Il faut qu'elle témoigne de la grandeur de notre personne, de la générosité de notre personne. Donc, le Shemitah va au-delà d'une question simple de finance. Ça va dans toutes ces situations où j'ai le sentiment très subjectif que les gens me doivent quelque chose. La Bible va nous dire, et on l'a vu hier, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Alors, quand je donne à quelqu'un, ça devrait être par amour. Et lorsque je le fais par amour et par amour véritable, je n'attends pas un retour sur mon investissement, je n'attends pas un retour sur le don que j'ai fait à cette personne, sur l'œuvre de gracieuseté, de générosité dont j'ai fait preuve envers la personne à qui j'ai fait un cadeau ou j'ai fait une bonne action. Et ici, ce matin, on nous dit que lorsqu'on fait ces choses-là, lorsqu'effectivement on remet la dette, lorsqu'on oublie qu'on nous doit quelque chose, lorsqu'on prend la décision de ne pas attendre ni un remerciement, ni une gratitude éternelle et perpétuelle, ni un retour de notre investissement, voici, on le fait en honorant Dieu. Ça honore Dieu. Je fais la petite aparté d'hier. Le fait que les gens ne s'attendent pas à un remerciement, le fait que les gens n'attendent pas un retour de balancier, ça ne nous dégage pas de notre responsabilité de politesse. Et la politesse commence par un merci. La politesse commence par une gratitude, une reconnaissance. Donc le fait que les gens ne soient pas dans l'attente d'une reconnaissance de ma part, ça ne m'enlève pas la responsabilité à moi d'être un bon citoyen, d'être un bon individu et de faire preuve de reconnaissance et de remercier avec politesse la personne qui m'a offert quelque chose. Toutefois, lorsque je donne et que je dégage la personne à qui j'ai donné de tout poids, de toute dette, à ce moment-là, j'honore Dieu. Donc, honorer l'Éternel, honorer Dieu. Ça veut dire que quand je fais les choses comme elles se doivent, quand je fais les choses sans penser ce qui va mettre de retour, Dieu s'en sent glorifié. Et en ce sens-là, oui, il est possible de faire des actions pour honorer Dieu sans témoigner vocalement, sans témoigner verbalement ou oralement de notre foi en Christ. Dans notre relation avec Dieu, puisqu'il juge non seulement nos actions, mais notre façon de faire, l'attitude qu'on a lorsqu'on pose un acte, assurément, si je le fais avec les bonnes motivations, avec les bons motifs de cœur, à ce moment-là, ça honore Dieu. Un exemple tout simple, la Bible nous dit de donner avec joie. Alors, lorsqu'on vient faire une offrande, lorsqu'on fait un acte de gratitude, lorsqu'on vient apporter notre dîme, la Bible nous dit qu'on doit le faire avec joie. Et que si on ne le fait pas avec joie, à ce moment-là, on serait mieux de ne pas le faire. Ça veut donc dire que lorsque je donne l'attitude de mon cœur au moment de donner, Dieu en prend compte. C'est important pour lui. Alors, si je le fais avec la bonne motivation, si je le fais avec la bonne attitude de cœur, à ce moment-là, ça honore Dieu. Si je le fais avec la mauvaise attitude de cœur, à ce moment-là, ça déshonore Dieu. Un peu l'offrande de Caïn et Abel. Les deux, puisque les parents avaient mangé de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors les parents l'ayant mangé, Caïn et Abel, leurs descendants directs, étaient eux aussi touchés par la connaissance du bien et du mal. Alors lorsque les deux sont arrivés devant Dieu avec une offrande, Abel savait déjà que cette offrande, Dieu allait l'approuver, et Caïn savait que l'offrande qu'il s'apprêtait à donner, qui était des fruits et non pas un agneau, que ces fruits-là, Dieu les refuserait. Il le savait parce qu'il avait mangé, à travers ses parents, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au fin fond de notre être, au fin fond de notre âme, il y a une certaine connaissance qui nous est encore acquise du bien et du mal. Dans toutes les sociétés qui existent, sans que ce soit une loi, dans toutes les sociétés, tuer quelqu'un était mal. Dans toutes les sociétés, s'approprier du bien de quelqu'un était mal. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, foncièrement de nous, il y a cette connaissance du bien et du mal qui reste encore active en nous. Et lorsque Caïn va s'entêter à offrir des fruits à Dieu, il est en train de dire à Dieu, sans le faire de sa bouche, mais dans son cœur, c'est « voici ce que je donne à Dieu et qu'il se contente de cela ». Lorsque quelqu'un vous prépare un repas et qu'il vous dit, ben regarde, moi je t'ai juste fait ça, puis t'es mieux de l'apprécier, puis ça, puis débrouille-toi avec ce que je t'ai préparé. La personne va dire, mais ça c'est pas fait avec amour, et c'est moins intéressant à manger. Mais lorsque on sait que la personne, même si c'est petit, même si c'est tout simplement une tasse de thé, même si c'est tout simplement un petit café qu'on a fait couler et qu'on a apporté à quelqu'un, cette image d'autrefois, lorsqu'on amenait à notre professeur, c'était, et c'était avant ma génération, là, mais j'entends mes parents, qui pouvaient en parler, ou je vois des films qui pouvaient en parler, où on disait à l'époque, on amenait peut-être pour Noël, ou à certaines périodes de l'année, une pomme, une orange qu'on offrait à notre instituteur ou à l'instituteur de notre enfant. C'était le geste qui était important. Vous allez me dire, à une certaine époque, avoir une orange au Québec, c'était difficile puisqu'on est dans deux climats différents. Mais le geste d'amener un petit quelque chose qui n'était pas énorme touchait le cœur de cette personne. Donc l'attitude avec laquelle je fais la chose va compter non seulement pour l'individu à qui j'offre la chose, mais aussi pour Dieu. Alors quand je fais ce que je fais, suis-je en train d'honorer Dieu? L'attitude que j'ai, est-ce qu'elle est effectivement à l'honneur de Dieu? Et quand je prends la décision de remettre une dette de quelqu'un, lorsque je prends la décision de libérer quelqu'un d'une dette, lorsque je prends la décision de pardonner quelqu'un d'une dette ou de ce que je crois que cette personne me doit, je suis en train d'honorer Dieu. Donc le premier point, à l'honneur de Dieu, le kabab, je rends lourd Dieu en honorant Dieu, en faisant les choses de la bonne manière, avec la bonne attitude. De surcroît à cela, appliquer le shemitah, appliquer le relâche des dettes, appliquer la rémission des dettes. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise le relâche au masculin, il faut écouter la prédication de dimanche et il faut écouter les premières minutes de l'enseignement d'hier. Donc, appliquer le Shemitah, c'est aussi appliquer la loi de Dieu. Le Shemitah, tout comme le jubilé, était une loi édictée par Dieu, était une loi qui avait été émise, qui avait été statuée, qui avait été mise en place par Dieu. Ça veut donc dire que j'avais le choix, soit de respecter la loi de Dieu, soit de l'enfreindre, soit de me conformer à ce que Dieu demandait à travers le jubilé, qui était le retour des esclaves à une liberté, qui était le retour ou la rétrocession des possessions et des propriétés à ceux qui avaient dû le vendre, et de surcroît à cela, la rémission des dettes. Alors j'ai le choix. Est-ce que je respecte ou j'enfreins les règles de Dieu? Est-ce que je me conforme? Est-ce que j'obéis aux lois de Dieu ou je désobéis aux lois de Dieu? Lorsque je décide d'appliquer le Shemitah, lorsque je décide effectivement de remettre la dette de quelqu'un, je suis en train d'honorer non seulement Dieu, mais aussi ses lois. Beaucoup de gens aiment Dieu, mais n'aiment pas ses lois. Beaucoup de gens disent, ah, j'aime tellement Jésus, mais n'obéissent pas aux lois de Jésus. Foncièrement, c'est comme dichotomique de dire, j'aime tellement Jésus, je veux le suivre, je veux lui obéir, mais je ne veux pas obéir à ses lois. Tu ne peux pas distancier ou dissocier plutôt le juste juge qu'est Jésus des lois qu'il a promulguées. Tu ne peux pas dissocier le législateur qu'est l'Éternel des armées, qu'est notre Dieu, des lois qu'il a établies. Tu ne peux pas dire oui, j'aime le législateur, mais j'aime pas ses lois. Tu ne peux pas dire oui, j'aime le juge, mais je n'aime pas ses jugements. Tu ne peux pas dire oui, j'aime le Créateur, mais j'aime pas sa création. Donc tu ne peux pas dissocier Dieu de ses lois. Quand tu veux honorer Dieu, tu honores aussi la loi de Dieu. Et le Shemitah n'était pas une proposition. Le pardon n'est pas une proposition, n'est pas une suggestion. Le pardon est un commandement de Dieu. Le pardon est une loi de Dieu. Et cette loi, elle est écrite dans la parole de Dieu. Tous nous devons pardonner. Nous devons apprendre à pardonner. Et lorsque je refuse de pardonner, lorsque je refuse de remettre la dette de quelqu'un, je suis en train d'enfreindre la loi de Dieu. Donc, il est important de savoir aujourd'hui, peut-être que dans ta vie, tu continues à vivre en disant, ben, cette personne, je l'ai aidée en 1950 et elle n'a jamais rien fait pour moi. Lorsque tu vis dans ce climat-là, tu es en train de dire, je suis en train de refuser de libérer cette dame ou cet homme de la dette qu'il a envers moi. Lorsque tu as donné à quelqu'un et que tu continues même 20 ans après d'attendre un remerciement, une gratitude et une attitude un peu de soumission de la part de cette personne parce que tu as fait un acte de bonté envers elle, tu l'as enchaîné, je vais prendre une gorgée, tu as enchaîné cette personne, tu l'as lié et là tu es en train d'enfreindre les règles de Dieu. Dieu te dit, aux 7 ans, tu aurais dû, que ce soit un prêt financier, la Bible dit, ce prêt financier, aux 7 ans, tu aurais dû le régler, tu aurais dû effacer la dette de celui qui te devait encore aujourd'hui. Et si on pousse ça plus loin et qu'on va dans la question du pardon et dans la question du relâcher des dettes morales de quelqu'un, bien à ce moment-là, tu ne peux pas maintenir un grief sur quelqu'un, tu ne peux pas maintenir cette dette d'une reconnaissance, cette dette d'une action, d'un retour de balancier, cette dette d'une bonne action en retour de la part de ton prochain. Donc la Bible te demande, honore Dieu, honore aussi la loi de Dieu. De surcroît à cela, pensons à une des paraboles que Jésus va donner à ses disciples. C'est le cas d'un roi qui fait venir auprès de lui un de ses serviteurs, qui lui doit énormément d'argent. Je lisais un article dernièrement et qui disait que si on amenait le montant qui lui est dû, ça serait le montant comme 100 millions de dollars aujourd'hui. Chose que je n'ai pas dans mon compte en banque et que je n'aurais fort probablement jamais dans mon compte en banque. Donc 100 millions de dollars. La personne doit au roi 100 millions de dollars. Le roi le jette en prison. Parce que ce serviteur n'a pas remboursé sa dette. Et là, il se met à pleurer, il se met à implorer la grâce du roi, il demande pardon, et le roi lui dit, regarde, c'est correct, j'efface ta dette. Le roi ne fait pas simplement le sortir de prison et lui dire, bon, ben, tu me paieras quand tu pourras. Le roi va effacer, va pardonner la dette de ce serviteur. Donc, 100 millions de dollars qui va lui dire, oublie ça, ces choses du passé, tu ne me dois plus rien, et le libère. Le serviteur, tout de suite en sortant de prison, il croise un de ses amis qui lui doit simplement le salaire d'une journée. Le serviteur qui vient d'être relaxé de prison le prend, prend son ami qui est débiteur auprès de lui, qui lui doit une dette d'une journée de travail et le jette en prison. Et les gens de la prison vont aller voir le roi et lui dire, « As-tu vu ce que ce serviteur a fait? Ce serviteur à qui tu avais pardonné 100 millions de dollars, il vient de jeter son propre ami pour une question d'un salaire d'une journée de travail. » Et le roi, lorsqu'il entend ça, se met en colère et il dit à ce serviteur, « Méchant serviteur, toi qui avais une grosse dette qui t'avait été pardonnée, lorsque tu es sorti de prison, au lieu de faire la même chose à ton frère qui te devait pratiquement rien, tu l'as jeté en prison. » Donc ici, on voit que la grâce qui nous a été faite à nous, si nous n'appliquons pas cette même grâce aux autres, on est aussi en train de déshonorer non seulement le roi, mais on est en train de déshonorer aussi la dette qui a été effacée, la grâce qui nous a été accordée. Donc non seulement honneur à l'Éternel, le kabab, c'est aussi honorer Dieu et honorer la loi de Dieu, mais c'est aussi honorer le pardon divin que nous avons nous-mêmes reçu. Il y a ce chant qui disait, « Comment peux-tu prier mon frère si tu es fâché contre ton frère ?» Dieu n'écoute la prière si tu n'es pas réconcilié. Ça veut donc dire que Dieu ne peut pas écouter ta demande de pardon, Dieu ne peut pas écouter ta demande de rémission si toi-même tu n'es pas prêt à remettre la dette de celui qui t'a offensé ou de celui qui est débiteur par rapport à toi. Donc lorsque je refuse de remettre la dette de quelqu'un, je suis en train de déshonorer cette même action de grâce que Dieu a eue à notre égard. Et assurément, aucun d'entre vous, puisqu'il sait cela maintenant, aucun d'entre vous qui est confronté maintenant à cette vérité ne voudrait déshonorer la grâce et annuler la grâce qui a été, qui vous a été octroyée lors de votre salut. Donc, honorer Dieu, c'est aussi honorer sa loi et c'est aussi honorer le pardon qui nous a été octroyé. Honorer Dieu dans le texte qu'on vient de lire, dans le Deutéronome, au chapitre 15, dans certaines versions, on va dire honorer le nom de l'Éternel, en l'honneur du nom de l'Éternel ou en raison du nom de l'Éternel. Le nom, c'est le terme Shem en hébreu, S-H-E-M. Encore là, un terme qu'on a déjà étudié. Et pour ceux qui ont déjà pris des notes, vous irez voir dans les notes passées, lorsqu'on parle de Shem, on parle surtout de la réputation et de la renommée de quelqu'un. Ici, ce verset est en train de nous dire, si nous n'appliquons pas le Shemitah, si nous n'appliquons pas la rémission des dettes, nous sommes aussi en train de déshonorer le nom de l'Éternel. Devant Dieu, quel est votre statut? Vous avez le statut d'être serviteur de Dieu. Vous avez le statut d'être enfant de Dieu. Vous avez le statut d'être soldat dans l'armée de Dieu. Vous avez le statut d'être chrétien. Et un chrétien, c'est un petit représentant ou un débris ou un morceau du corps de Christ. Ça veut donc dire que vous représentez le royaume de Dieu. Alors, mes actions, mes paroles, mes gestes, mon comportement, mon attitude, ma personnalité représentent aussi le royaume de Dieu. Certains vont parfois dire que la vision la plus réaliste du royaume de Dieu que les gens du monde vont avoir, c'est celle que nous, chrétiens, nous transmettons. Alors, quelle est l'attitude que je démontre à travers mes paroles? Quelle est la représentation du royaume de Dieu que je fais à travers mes actions, à travers mes résolutions, à travers mon attitude, à travers mes réactions même? Donc, l'application ou la non-application du Shemitah va aussi faire honneur ou déshonneur à la réputation de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu agissent bien, ils font honneur à la réputation de Dieu. Rappelons-nous ce verset. Aimez-vous les uns les autres, et c'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous avez les uns envers les autres, à la manifestation de cet amour que nous avons réciproquement et mutuellement, tous sauront que nous sommes des disciples de Christ. Disciple, c'est quoi? C'est un élève de Christ. C'est quelqu'un qui représente les enseignements de Christ. C'est quelqu'un qui étudie, qui applique et qui vit selon les enseignements de Christ. Alors, lorsque les gens te regardent, lorsque les gens te regardent sur une question de pardon, lorsque les gens te regardent sur une question de grâce que tu accordes ou que tu n'accordes pas à ton prochain, lorsque les gens te regardent sur une question de dette que tu effaces ou que tu décides de ne pas effacer envers ton voisin, à ce moment-là, est-ce que les gens peuvent dire que tu es un digne représentant du royaume de Dieu? Il n'y a pas juste toi dont le nom va être terni par tes mauvaises décisions. Il n'y a pas que toi dont le nom va être terni par la méchanceté qui peut émaner de toi. Il n'y a pas simplement moi dont la réputation va être ternie par mon refus de pardon, par mon refus de grâce, par mon refus de compassion, par mon refus d'amour envers quelqu'un, par mon refus de remettre, de pardonner, de libérer quelqu'un d'une dette. Il y a non seulement moi, mais il y a aussi celui que je représente, donc Jésus. Et je ne veux pas être un sujet de scandale pour Jésus. Je ne veux pas être un sujet de honte pour Jésus. Je ne veux pas, à travers mes actions, mes paroles, être une occasion où on va ternir le nom de mon Seigneur, ce nom-là qui est plus élevé que tous les autres noms, ce nom-là par le seul par lequel quelqu'un puisse être sauvé. Je veux que ce nom, lorsque on me regarde, qu'on soit amené à magnifier ce nom. Je veux que lorsqu'on m'entende, on soit à même de magnifier le nom de Jésus. Je veux que mes actions servent à bonifier le nom de Jésus. Je veux que mon comportement, que mes décisions servent à exalter le nom de Jésus. Alors, quelle sera ta décision aujourd'hui? Le défi est entre tes mains. Tu peux, à travers tes décisions d'aujourd'hui, à travers la rémission des dettes, tu peux honorer Dieu, tu peux honorer la loi de Dieu, tu peux honorer le pardon divin que toi-même tu as reçu, et tu peux honorer le nom même, la réputation, la renommée de Dieu. Contrairement à cela, si tu ne le fais pas, voici le risque qui t'encourt. Tu vas déshonorer Dieu, tu vas déshonorer la loi de Dieu, puisque tu ne vas plus te conformer, mais tu vas aller en opposition à la loi de Dieu. Tu vas déshonorer le pardon et la grâce qui t'avaient été accordés à travers la mort de Jésus à la croix. Tu vas déshonorer cette grâce qui t'avait été accordée. Et si tu n'accordes pas le shemita, si tu n'accordes pas le pardon, alors tu fais en sorte que Dieu ne soit pas aussi lourd qu'il devrait être. Tu allèges Dieu dans la balance. Tu fais qu'il est moins important, tant pour toi que pour ceux qui te regardent. Et loin de moi, et j'espère loin de toi, l'idée de ne pas être une source d'honneur pour Dieu dans tes décisions, dans tes actes, dans tes paroles, dans ton attitude, dans ton mode de vie. Alors je prie mon frère, je prie ma sœur, que tu sois un honneur pour l'Éternel dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es, notamment dans la question du pardon, notamment dans la question de la rémission des dettes, quel que soit le type de dette, que tu puisses honorer Dieu et que tu lui offres une offrande de ta vie qui soit agréable à lui, que tu sais comme étant approuvable par Dieu. Faisons de Dieu quelqu'un qui est lourd, encore plus lourd, toujours plus lourd dans la balance de nos priorités et dans l'honneur qui lui est dû. Alors prions ce matin. Seigneur, nous te bénissons encore pour cette parole remplie de vérité, mais rempli de challenges, rempli de défis pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, cette semaine, tu parles d'un sujet épineux pour nous tous, la question du pardon, la question d'un pardon sans désir de retour, sans retour de balancier, sans même, Seigneur, attendre ou espérer quelques remerciements ou quelques reconnaissances. Un don aveugle, délibérément aveugle que nous faisons envers notre prochain, au même titre où toi tu l'as fait pour nous. Lorsque tu es mort à la croix, tu savais que certains d'entre nous allaient te dire merci et que d'autres allaient tout simplement te tourner le dos. Un peu comme ces 10 lépreux que tu as guéris et un seul est venu te dire merci. Tu savais, Seigneur, qu'il y en avait 9 qu'elle a oublié, qui allaient passer à autre chose. Un seul allait revenir et malgré tout, tu les as tous guéris. Alors je prie, Seigneur, qu'à travers nos actions, qu'à travers notre décision de nous conformer à la loi du pardon, conformément à notre décision d'obéir à la loi du relâche, de la remise, de la libération et du pardon des dettes, que nous puissions, Seigneur, t'honorer, toi qui mérites toute gloire et tout honneur, que nous puissions aussi honorer ta loi comme étant juste et actuelle et toujours importante et primordiale pour nous, que nous puissions honorer le pardon que nous avons nous-mêmes reçu. Seigneur, nous ne voulons pas mépriser ce pardon en refusant à d'autres la grâce. Nous ne voulons pas être comme ce serviteur à qui tu remets énormément et qui lui jette son frère en prison à peine sorti d'incarcération lui-même. Et Seigneur, nous voulons être un honneur à ton nom. Nous voulons être une source d'honneur à ta réputation, à ton hégémonie mondiale, universelle. Nous voulons, Seigneur, être une source de gloire pour toi, non pas une source de scandale, non pas une source de déshonneur. Alors je prie, Seigneur, que cette parole ce matin trouve un endroit important dans notre cœur. Un endroit, Seigneur, où elle peut être à l'abri des oiseaux qui viennent la voler, du soleil qui vient brûler cette parole. Je prie, Seigneur, que tu l'arroses par l'onction de ton esprit et qu'elle puisse croître pour porter un fruit qui te sera agréable, un fruit qui sera totalement, pleinement à l'honneur de ton nom. Nous t'avons prié pour ta gloire, pour ton honneur, pour toi seul, Jésus. Amen. Alors voici ce que nous avions pour nous ce matin. Je saluais quelques personnes, voir si je suis capable de repérer où on était tout à l'heure. Je remonte. Donc je crois que la dernière personne qu'on a saluée tout à l'heure, c'était Babette et Andreas. Donc bonjour à Farley, à Marie-André, bonjour à Julie. Bonjour à Maggie, bonjour à Yaoi, bonjour à Jocelyne et à Jacques, bonjour à Lucie, bonjour à Yolène, bonjour à Nadège, bonjour à Daniel, là cette fois-ci c'est Daniel Long, qui d'autre? Bonjour à Myriam et à Donald. Alors je crois que c'est tout. C'est tous ceux que je peux voir. Les autres, je vous ai déjà salué plus tôt. Bonjour à mon épouse qui vient de s'asseoir devant moi dans les dernières minutes. Vous ne l'avez pas entendue. Elle a fait ça en toute discrétion. Donc, je la salue. Elle a terminé sa réunion et elle est venue nous rejoindre. Donc, que Dieu la bénisse aussi. Sinon, je vais avoir une très mauvaise matinée. Donc, je la salue. J'honore Dieu en la saluant. Et puis, elle doit recevoir mes salutations sans attendre rien. Moi, je dois lui donner mes salutations sans entendre rien en retour. Donc, voilà, j'aurai même pas un café, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Tout ça, c'est une petite blague. Donc, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin, toujours 8h30 pour notre bénédiction matinale. Et je vous assure, demain matin, on va aussi... voir des choses intéressantes. Demain matin, on étudie la question d'abandonner ses droits, de ne pas faire valoir ses droits. C'est le terme yad qu'on va étudier demain. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes. C'est vraiment une semaine intéressante, cette semaine-là. Il y a des choses qu'on apprend. Donc, on vous invite à être là. Demain matin, 8h30, j'ai déjà hâte de vous rejoindre et de partager ce qu'on a à partager demain. Alors sur ce, bonne journée à tous et puis à demain matin. Au revoir tout le monde.